Décoloniser notre rapport aux animaux, de Cédric Sueur, édition Odile Jacob. La colonisation ne concerne pas seulement les peuples et les territoires humains. Elle s'applique aussi aux animaux, aux écosystèmes et aux relations que nous entretenons avec eux. Coloniser, c'est s'approprier, contrôler, exploiter, mais aussi imposer une vision du monde comme si elle était universelle. En ce sens, l'exploitation animale apparaît comme l'un des angles morts de la critique du colonialisme. Cédric Sueur, professeur en éthologie à l'Université de Strasbourg, s'empare du vaste sujet de notre rapport aux animaux. Le ton est donné dès la première page, où un veau se délecte de la chaleur du giron de sa mère, pour se retrouver brusquement seul dans une obscurité froide et menaçante. Une immersion plus vraie que nature. En nous invitant à déplacer notre regard et à nous poser une question vertigineuse, pourquoi exploitons-nous les animaux? L'auteur se plonge dans les racines du mal, mais surtout explore d'autres perspectives pour changer de paradigme et de dynamique. Il n'y a pas de pourquoi sans comment. Cet essai stimulant et audacieux nous invite à réparer nos imaginaires avec un fil rouge qui se déroule comme une évidence tout au long de notre lecture. Nous faisons monde commun avec les animaux et avec les autres êtres vivants. Les considérer et arrêter de les invisibiliser est devenu une priorité éthique et politique majeure. Cette colonisation animale normalisée structure nos paysages intérieurs et n'est plus acceptable. L'Occident s'est longtemps pensé supérieur à la nature, avec en son centre l'humain, décideur et gestionnaire des autres formes de vie. Une césure dramatique d'avec les animaux, dès lors réduit à des ressources, des machines biologiques, des stocks ou des cobayes. En mobilisant science, philosophie et politique, Cédric Sueur met en lumière une refondation profonde de notre manière de cohabiter avec le monde vivant, en sortant de nos cadres de pensée occidentaux, hérités de siècles de domination, de hiérarchisation et d'appropriation du vivant. Les animaux sont conscients, et cela dérange. Quand Coco, femelle gorille, pleure à l'annonce de la mort de son copain chaton, elle comprend ce que le langage des signes lui signifie. Perte d'un être chéri plus conscience de sa finitude égale grande tristesse. Ces dernières décennies, l'éthologie n'a cessé de démontrer chez les animaux conscience de soi et des autres, mémoire épisodique, théorie de l'esprit, sensibilité et capacité à ressentir des émotions ou de l'attachement, en développant des relations sociales complexes. Pourtant, nos sociétés continuent de fonctionner comme si de rien n'était. Laboratoires, élevage industriel, politiques de gestion de la faune ou pratiques de conservation restent largement fondées sur la négation de la subjectivité animale. La contradiction est profonde, nous savons, mais nous refusons d'agir en conséquence. Le monde selon les peuples non occidentaux. Des siècles d'influence religieuse et culturelle ont creusé le fossé entre animaux humains et non humains. Une césure aux conséquences dramatiques et une ontologie qui ne concerne pourtant qu'un tiers des populations mondiales. En effet, les cultures d'Afrique et d'Asie privilégient une autre manière de voir et de partager, où idéologie holistique et liens communautaires ont un rôle central. En Alaska, les Gwinch reconnaissent la supériorité des animaux en matière de savoir. Naturalisme, totémisme, animisme et analogisme transforment la manière dont nous concevons leur place. Dans ces visions du monde, l'animal n'est pas une ressource, mais un être avec lequel il faut composer, négocier, parfois même dialoguer. Ces cosmologies rappellent que la Terre n'appartient à personne et que les humains ne sont qu'un élément parmi d'autres d'un vaste réseau d'interdépendance. Nous vivons dans un monde partagé. Il faudrait adopter une diplomatie écologique, accompagnée d'une réflexion éthique, sorte de partenariat où la coexistence entre l'humain et l'animal se construirait à travers le dialogue et la reconnaissance mutuelle. Composer avec la nature revient à ce que chaque être soit partenaire d'un équilibre global. Comment repenser notre relation au quotidien? Émilie Dardenne prône la zoo-inclusivité, l'intégration du respect envers l'animal à toutes les échelles de la société. chercher des terrains d'entente favorables à leur bien-être, comme par exemple installer des nichoirs à mésanges, jardiner pour protéger la biodiversité régionale, protéger les gîtes à chauves-souris, et avant tout, surveiller nos mots. Oui, le langage influence notre perception du monde et donc nos comportements. Ne dites plus « manger comme un cochon », mais « manger comme quatre ». L'urbanisme n'est pas en reste. À New York, des façades ont été pensées pour incorporer plantes et nichoirs d'espèces d'oiseaux et d'insectes. À Toronto, un parc de 330 hectares a été réalisé dans d'anciennes zones industrielles portuaires. Et la faune sauvage ? L'expropriation des peuples autochtones au nom de l'écologie au profit d'intérêts occidentaux est hélas fréquente. Le management de la faune sauvage semble pouvoir se passer des savoirs locaux ancestraux. Il est temps de déconstruire les préjugés. Un des aspects majeurs des conflits reste cette compétition pour les ressources. Au bout de la Bretagne, entre phoques et pêcheurs, ou au fin fond de l'Afrique, entre éléphants et agriculteurs, ou au Japon, entre macaques et villageois, les affrontements sont rudes. La coexistence implique une prise en compte des interactions. Souvent, la méfiance envers les autorités gouvernementales entache le débat. C'est le cas pour le loup en Europe ou le léopard en Inde. Le concept One Health, créé en 2018, où santé animale, humaine et environnementale sont intrinsèquement liées, met en lumière les interconnexions entre différentes formes de vie. Il aura gagné en importance lors du Covid, forçant à repenser notre lien avec la faune. 60% des maladies infectieuses sont des zoonoses. Cela fait réfléchir. Dans le domaine scientifique, la recherche doit être repensée de manière à reconnaître les animaux comme des participants et non plus comme de simples objets expérimentaux. Il ne s'agit pas d'un rejet de la connaissance, mais d'un ajustement des pratiques en prenant en compte l'agentivité animale dans les protocoles. On sait que les macaques ont une conscience de soi, une mémoire et un monde émotionnel complexe. Leur usage pour l'expérimentation animale a augmenté en 2022. Comment est-il encore possible de ne pas prendre en compte la richesse de leur être ? Le droit animalier, quant à lui, est en pleine mutation. En Inde, en 2013, les dauphins ont été reconnus comme des personnes. À quand une personnalité juridique accordée en France ? Nos choix individuels doivent être accompagnés de profonds changements de nos institutions. L'un ne va plus sans l'autre. Certains chiffres donnent le vertige. 12 millions de veaux tués chaque année en France, ou près de 90% de nouveaux médicaments testés sur animaux qui échoueraient lors d'essais cliniques chez l'humain. À l'heure du délitement du monde, cet essai engagé, structuré et essentiel dégage notre horizon et nous rappelle que tout n'est qu'interdépendance, comme le dit ce concept bantou. Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous.